Dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, Jésus explique à la foule ce que Dieu demande d'eux. Qu'ils placent leur foi en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Mais cela ne leur convient pas du tout. Je continue le texte. Sur quoi ils lui dirent, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ?» Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, « Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. » Versets 30 à 31. En guise de réponse, les gens demandent un miracle. Ils se croient au cirque et veulent qu'on les divertisse. Leur philosophie est « Je crois que ce que je vois et tout ce que j'ai vu, ça suffit pas, il m'en faut davantage, je veux qu'on m'épate. » C'est de l'arrogance. Ils s'attendaient à ce que le Messie, une fois venu, fasse bien mieux que Moïse. Ces gens supposaient que la multiplication des pains, c'était de la rigolade à côté de la manne qui avait nourri leurs ancêtres pendant 40 ans dans le désert. Quelle insolence ! Je continue. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain, car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Versets 32 à 33. Jésus déclare solennellement qu'ils sont grandement dans l'erreur à plusieurs égards. Moïse n'a rien donné du tout. C'est l'Éternel qui créait la manne chaque jour. Ensuite, le Père leur donne le pain du ciel présentement. Jésus est le vrai pain. Ainsi, la prétendue supériorité de Moïse disparaît. La manne était une nourriture pour le corps seulement. D'ailleurs, la plupart des Israélites ramassaient la manne et la mangeaient, mais n'avaient aucune foi en Dieu, ce qu'ils ont continuellement prouvé par leur conduite sans cesse rebelle. La manne préfigurait Jésus, le vrai pain qui est une nourriture spirituelle, puisqu'il satisfait les besoins les plus profonds de l'homme. En effet, le Fils a la vie en lui-même et est descendu du ciel pour donner la vie éternelle à ceux qui croiraient en lui. Je continue. « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Versets 34 à 35. À cette époque, le pain était un aliment de base indispensable dans la vie des Israélites. Dans la langue originelle, les mots « jamais » occupent la place centrale de la phrase. C'est comme si dans un français maladroit, on disait « jamais plus faim n'aura celui qui vient à moi et jamais plus soif n'aura celui qui croit en moi. » La foule n'a pas encore compris que Jésus est le véritable pain et qu'il parle à un niveau spirituel. La femme samaritaine voulait l'eau dont Jésus parlait pour qu'elle n'ait plus à aller puiser au puits. Ces gens, eux, veulent une multiplication des pains permanente, de manière à ce qu'ils aient toujours à manger. Alors Jésus se fait plus précis, disant qu'il est lui le pain qui donne la vie. « C'est moi qui suis » est la première d'une série très importante de sept révélations commençant par cette déclaration. « Je suis le pain qui donne la vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et pour finir, je suis le vrai plant de vigne. » Ces paroles sont soit associées à un miracle, soit résument un enseignement de Jésus. Elles ont pour but de souligner une fois encore que la fonction essentielle des actes et des paroles de Jésus était de révéler son identité et sa mission sur terre. Jésus est à la fois celui qui apporte le don de Dieu et le don lui-même. Je continue. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Versets 36 et 37. Jésus reproche à la foule son manque de foi car elle avait eu le grand privilège de le voir et de profiter de ses miracles de compassion. Tous ceux que le Père me donne fait référence à l'action souveraine de Dieu, tandis que celui qui vient à moi décrit la démarche humaine en réponse à l'initiative divine. Le Fils recevra tous ceux que le Père lui donnera. Cette élection divine est affirmée avec encore plus de précision et de force, plus loin dans ce chapitre, lorsque Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Fin de citation. Comment donc peut-on réconcilier la souveraineté divine avec la responsabilité humaine? Nous vivons ici-bas et nous ignorons comment fonctionne la machine céleste qui choisit certaines personnes afin qu'elles reçoivent la vie éternelle. Les Écritures parlent bien de l'élection des bienheureux, mais jamais de celle des perdus. En d'autres mots, ceux qui héritent le salut le doivent exclusivement à Dieu qui les a élus, tandis que ceux qui ne croient pas ne peuvent blâmer qu'eux-mêmes. Le problème que je rencontre tient au fait que je fais un amalgame, une confusion entre le ciel et la terre. Je prends la compréhension fort restreinte que j'ai de ce qui se passe dans les sphères célestes et je le mets bout à bout avec ma façon de voir les choses à partir de mon monde ici-bas. Or, les décisions divines d'en haut et humaines d'en bas n'appartiennent pas du tout au même niveau d'intelligibilité. Elles ne sauraient être évaluées sur le même plan logique. Ceci dit, l'invitation de Jésus est authentique. Quiconque veut peut venir à lui, et il promet qu'il ne le rejettera pas. Je continue. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Versets 38 à 40. Jésus déclare à nouveau qu'il est d'origine céleste. Il dit explicitement qu'il est venu dans le but de faire la volonté de Dieu. Or, celle-ci est l'obtention du salut pour tous ceux qui sont donnés au Fils par le Père. Quand il dit « Et moi, je les ressusciterai au dernier jour », il est bien évidemment question de la résurrection pour la vie éternelle. Et c'est Jésus qui l'ordonnera. Éventuellement, tout le monde reviendra à la vie, mais les autres le seront pour le jugement. Ce qui est rassurant d'après ce verset, c'est que si on est donné au Fils par le Père en vue d'obtenir le salut, on ne peut pas se perdre en route. Le passage sur terre des croyants peut être comparé à une transhumance. Une fois que quelqu'un a rejoint le troupeau de brebis du Christ, il va arriver de l'autre côté de la rivière où l'herbe est des plus verdoyantes. Tous ceux qui cherchent véritablement à découvrir qui est la personne du Christ et qui lui font confiance possèdent déjà ici-bas une qualité de vie qui est éternelle. C'est un décret divin qui le garantit. Un passage écrit par l'apôtre Paul exprime cette vérité de la façon suivante. Je cite « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Fin de citation. En d'autres mots, si je fais partie des élus, je suis aussi sur le chemin qui aboutit à la gloire céleste. Je continue le texte. Alors les Juifs se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel ?» Versets 41-42. Pour bien saisir qui est Jésus et quel est son ministère, il faut comprendre d'où il vient et où il va. Les Juifs incrédules et hostiles, à l'exemple de leurs ancêtres dans le désert, murmure contre lui à cause de sa déclaration concernant son origine céleste. Leur pensée est à première vue logique. Celui dont on connaît les parents et le lieu de naissance ne peut pas être descendu du ciel. Mais ils ignoraient tout de son origine virginale, le fait qu'il avait été conçu du Saint-Esprit et donc n'avait pas de père terrestre, seulement un céleste. Il le croyait à tort, fils naturel de Joseph. Il ne savait pas qu'il était le Logos, l'expression et la parole de Dieu. Cependant, ces miracles auraient quand même dû leur mettre la puce à l'oreille. Mais leur réaction de protestation est dictée par l'incrédulité. Je continue. Jésus leur dit, « Cessez donc de murmurer, ainsi entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Versets 43-44. Jésus n'essaya pas de se justifier, au contraire, il enfonce le clou. Sans une intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un, il lui est impossible de reconnaître, sans se tromper, qui est le véritable messager du Père. Car nul ne peut venir à Jésus ou croire en lui sans l'aide de Dieu. L'homme est tellement enlisé dans la boue du péché et de l'incrédulité que sans une intervention divine, il n'y a aucun espoir pour quiconque. En fait, le Nouveau Testament appelle les non-croyants des morts vivants, physiquement en état de fonctionnement, mais spirituellement cadavérique. Je continue. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Verset 45. Pour appuyer cet enseignement concernant le salut qui vient uniquement de la grâce divine, Jésus cite un passage prophétique de l'Ancien Testament. Il parle de la postérité du serviteur de l'Éternel et des enfants de la nouvelle Jérusalem. Cette dernière est également décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui ont le cœur bien disposé se laissent instruire par Dieu comme l'indique le passage suivant tiré de l'Ancien Testament. Je cite « Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. » Fin de citation. Ils acceptent la vérité concernant la personne de Jésus et répondent à son invitation de venir à lui. Je continue le texte. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Versets 46-48. C'est la troisième fois que l'expression « vraiment, je vous l'assure » apparaît dans ce discours. Il résume tout l'enseignement de Jésus dans ce débat. La connaissance du Père ne s'obtient que par lui, le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Je continue. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Versets 49-50. La manne ne fit que répondre à un besoin physique limité dans le temps et ne peut en aucun cas être comparée au pain qui descend du ciel. Ceux qui sortirent d'Égypte ont tous mangé la manne tous les jours, mais à cause de leur rébellion, ils moururent dans le désert et n'entrèrent pas dans le pays promis. Je continue. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Verset 51. Non seulement le Père donne le pain du ciel, mais Jésus s'offre également lui-même. Il parle ici de son sacrifice pour le péché des hommes. C'est en lui et paradoxalement en sa mort que se trouve la source de la vie éternelle. Si vous trouvez cela difficile à accepter, sachez que les Juifs pensaient la même chose à cette époque. Il fut crucifié environ un an après ces événements. Mais ce n'est qu'à la veille de sa mort qu'il a institué la communion en souvenir de son sacrifice. En conséquence, manger sa chair ne peut pas être pris au sens littéral ou être vu comme un sacrement. C'est une métaphore pour une foi personnelle en lui. Je continue. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Versets 52 à 54. Comme c'est souvent le cas, l'enseignement de Jésus n'est pas compris et une discussion virulente éclate dans la foule à cause de ses paroles. Leur compréhension se situait à un niveau purement matériel. Pour la quatrième fois, Jésus répète cette formule « Vraiment, je vous l'assure », pour appeler ses auditeurs à prêter attention, car ce qu'il va dire est de la plus haute importance. Il insiste en répétant qu'il faut manger sa chair et ajoute aussi « boire son sang », ce qui ne peut qu'être pris symboliquement, comme je l'ai déjà dit. Cette métaphore en rappelle une autre du livre des Proverbes de l'Ancien Testament et qui est la sagesse divine personnifiée et précurseur du Christ. Elle invite les passants à se joindre à son festin en disant « Venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. » Fin de citation. C'est cette même sagesse qui a les paroles qui donnent la vie. Je cite un autre passage. « Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris, car heureux l'homme qui m'écoute, car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. » Fin de citation. Il faut aussi savoir que la loi de Moïse est formelle dans son interdiction de consommer du sang sous quelque forme que ce soit. Je lis deux passages qui sont très clairs à ce sujet. « C'est une ordonnance immuable que vous respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. Vous ne consommerez aucune graisse ni aucun sang. Je me retournerai contre tout Israélite ou étranger résidant au milieu d'eux qui consommera du sang, et je le retrancherai de son peuple, car le sang, c'est la vie de toute créature, et moi je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » Fin de citation. Celui qui aurait enfreint ce commandement était retranché de son peuple, c'est-à-dire lapidé, condamné à mort à coups de pierre. Le sang avait une fonction rituelle et était réservé pour l'expiation des péchés. C'est exactement ce que le Christ a accompli sur la croix. Par sa mort, il a effacé mes fautes. Les paroles énigmatiques de Jésus ont dû scandaliser et intriguer ses auditeurs. Pourtant, l'énigme est résolue lorsqu'on comprend qu'il parlait de l'expiation des péchés par son corps brisé et son sang versé sur la croix. Cette invitation à s'approprier Jésus est un appel à la foi en lui et à son enseignement. Je continue. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Versets 55 à 57. Tout comme la nourriture et la boisson soutiennent la vie physique, la foi personnelle en Jésus-Christ fortifie spirituellement ses disciples. Sa chair et son sang donnent la vie éternelle à ceux qui y participent. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ jouit d'une communion intime avec lui. Les croyants demeurent en Jésus et ont la vie par lui de la même manière que Jésus tire sa vie du Père et demeure en lui. Quand les Israélites mangeaient la manne dans le désert, c'était un acte quotidien aux conséquences très temporaires. Ça calmait leur faim. Jésus, lui, donne la vie éternelle. C'est ainsi qu'il établit un contraste entre Moïse et lui-même. Au début de cet évangile, il nous est dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. » Fin de citation. Cette vie éternelle qui réside en lui, il la donne à tous ceux qui ont foi en lui. Je continue le texte. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaüm. Versets 58 à 59. Jésus parlait souvent dans les synagogues juives. Les réunions n'y revêtaient pas un caractère aussi officiel que celui de nos églises traditionnelles, car c'était habituellement des laïcs qui prenaient la parole. Jésus conclut son exposé en reprenant les thèmes principaux. Le pain de Moïse ne procurait pas la vie éternelle, car le salut ne vient pas de la loi. Dieu a donné le vrai pain de vie, celui qui vient du ciel. Et ceux qui placent leur confiance en Jésus reçoivent la vie éternelle. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.